Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, salut Thomas. Et Thomas,
vous avez le jacouille.
Ah bah voilà. Vous le faites super bien.
J'ai retrouvé mon jacouille. Comment ça va,
Sidonie? Ça va super. Bienvenue dans notre cabinet de curiosité et de curieux, évidemment.
On est en pleine forme, comme vous l'entendez au programme. Donc, juste avant la sortie des Visiteurs 3, la révolution, on va jouer au vrai ou faux. Voilà, vrai ou faux sur 1789. Et donc, par exemple, Louis XVI, mais aussi Charlotte Corday, souvent décrite comme une royaliste totalement folle. On vous racontera son histoire, on se baladera dans la Bastille. On va raconter aussi l'histoire de la Carmagnole.
Des okapis, des panthères des neiges, des condors.
En 1789
non, et des vautours,
bon,
bah, ça devait exister j'imagine. Mais là, on va vous faire visiter un bioparc français formidable. C'est un zoo nouvelle génération, vous savez, ces zoos qui se préoccupent du bien-être des animaux sauvages. Et tout de suite, attention, il y a un pirate dans votre maison.
La curiosité est un vilain défaut.
De plus en plus connectés et de plus en plus vulnérables. Avec Internet, se sont aussi développées les cyberattaques sur des objets comme les machines à laver ou les voitures.
Vous l'avez localisé ?
Thomas Hugues.
Oui, c'est bon, je suis calé sur le signal. Il est en train de passer un coup de téléphone codé à un portable en mouvement.
Si on peut contrôler sa clim avec son téléphone, est-ce que quelqu'un d'autre peut aussi le faire ?
Sidonie Bonnec.
Ça y est, je l'ai.
Est-ce qu'elle va bien ?
Quand on se retrouve avec autant d'appareils connectés sur le net, cela veut dire qu'il faut les sécuriser.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Notre maison est bourrée d'objets connectés, autant de portes d'entrée pour les pirates de l'informatique. Qu'avons-nous à craindre et surtout comment y remédier? On en parle ce soir avec les journalistes Thomas Saint-Orens, et Blaise Mao. Vous allez bien?
Très bien, merci.
Très bien.
Thomas, vous êtes aussi journaliste au Parisien Magazine. Vous, Blaise Mao, vous êtes rédacteur en chef du magazine Ubec Erika. Et si on parle ce soir de nos maisons qui sont fragilisées par les cyberpirates, c'est que vous publiez un livre Cyberfragile aux éditions Thaïlandia, une enquête qui a passionné justement le Parisien Magazine qui paraît demain. Combien de cyberoffensives, de cyberattaques finalement chaque jour ou chaque minute dans le monde, tiens, pour se faire peur?
Alors, il y a pas mal de statistiques, c'est très très difficile à recenser. Alors, il y a un chiffre qui parle de 177 300 cyberattaques quotidiennes, mais on peut aussi prendre l'exemple sur les smartphones, plus 400% d'attaques d'un trimestre à l'autre. Parce qu'en fait, on n'y pense pas, mais notre smartphone, c'est comme un ordinateur finalement qui nous suit partout, et les objets dans la maison aussi sont des sortes de petits ordinateurs qui accompagnent notre vie de plus en plus numérique, de plus en plus connectée.
Ça veut dire que c'est cyberpirates, ils s'intéressent à quoi en priorité? À quel genre de données?
Ils s'intéressent surtout à l'argent. L'idée, c'est comme un braqueur ou un bandit de grand chemin dans la vie réelle, c'est d'arriver à faire le plus d'argent, le plus vite et le plus facilement possible. Donc peut-être qu'au départ, il y a quelques années, les hackers s'intéressaient un peu à l'esbrouf, aux défis techniques, mais désormais, on assiste à une véritable division du travail, une professionnalisation des pirates, dont le but est de réaliser des logiciels malveillants, des listings, des faux emails pour faire soit des arnaques basiques, des chantages à la donnée, ou encore des vols d'identifiants qui peuvent être des combinaisons de mots de passe et de codes bancaires par exemple.
Alors dans ces génies de l'informatique, il y a des méchants et des gentils. Il y a une histoire récente qui concerne Facebook. En fait, on aurait tous pu se faire pirater notre compte Facebook, mais ça n'est pas arrivé. Pourquoi ?
Ça n'est pas arrivé. Alors Facebook et ses utilisateurs, donc nous potentiellement, nous pouvons remercier Anand Prakash. Alors c'est un ingénieur indien qui a trouvé récemment une faille dans la version web de Facebook qui aurait pu permettre à n'importe qui, notamment quelqu'un peut-être de mal intentionné, de pirater n'importe quel compte. Alors pour résumer, cet ingénieur indien a trouvé une vulnérabilité simple dans une version bêta de Facebook qui permettait en gros de passer toutes les barrières protégeant les mots de passe pour finalement s'infiltrer dans n'importe quel compte et ensuite par exemple modifier les statuts, changer ce qu'on peut écrire sur son mur ou ce genre de choses. Avec cet ingénieur en informatique, c'est un hacker bienveillant, un hacker éthique. C'est-à-dire, il aurait pu profiter de cette faille pour gagner beaucoup d'argent,
Mais il a partagé son savoir
avec Facebook pour que l'entreprise ensuite puisse corriger cette erreur et au passage lui donner un chèque de 15 000 $ pour le remercier.
Alors pour Facebook, apparemment, on est tranquille quelques temps, c'est déjà pas mal. Si on entre dans notre maison et si par exemple on pousse la chambre de nos enfants, on voit nos enfants ou nos petits-enfants câliner une petite poupée, c'est peut-être en réalité, Blaise Mao, une espionne. Comment ça se fait ?
Ça peut être une espionne. En fait, aujourd'hui, les poupées, comme les voitures, comme les ordinateurs, sont connectées. Alors, on parle de poupées smart, de poupées intelligentes. Elles sont peut-être pas si intelligentes que ça quand on voit à quel point elles sont vulnérables. L'année dernière, la fameuse modèle Hello Barbie, donc la Barbie connectée qui a été commercialisée, $75. C'est une Barbie qui a un micro, un haut-parleur, qui est connectée soit en Wi-Fi, soit en Bluetooth à Internet. Et en fait, elle enregistre, elle mémorise et elle répond à l'enfant qui la possède. Donc elle a des discussions.
Mais les
elle
discussions,
a des phrases préenregistrées.
Elle reste pas dans sa tête, dans son
et
corps.
Et alors ces discussions-là sont en fait stockées, comme toute production numérique, sont stockées sur des serveurs distants, sur le cloud d'une société qui s'appelle ToyTalk, qui est un éditeur de logiciels de reconnaissance vocale. Et en fait, il y a eu une affaire de faille, là encore une fois, identifiée sur ces serveurs de ToyTalk. Un collectif anti-pub a porté plainte, s'est intéressé au sujet, a essayé de savoir si ToyTalk commercialisait ces phrases-là, ces infos-là sur les enfants à des fins publicitaires. Alors, Mattel et ToyTalk ont juré que non, qu'il n'y avait pas d'usage malveillant ou commercial de ces données, mais potentiellement, tout ce que raconte votre enfant à sa poupée connectée est enregistré, stocké et écoutable, utilisable.
Ça fait un peu froid dans le dos. Mais
il y en a d'autres,
tout,
des histoires qui font froid dans le dos.
Le babyphone, par exemple, vous croyez qu'il vous permet juste
alors moi, comment
de
vous
surveiller
dire, mes
votre
enfants
enfant
ont 23 et 20, donc je l'utilise moins, le babyphone.
C'est vrai. Mais moi, je n'utilise pas du tout et franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas tout de suite, les curieux.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Comment les cyberpirates entrent dans nos maisons? C'est le sujet à découvrir dans le Parisien Magazine en partenariat avec RTL. Le Parisien Magazine qui publie les bonnes feuilles de Cyberfragile, le livre que vous sortez, Thomas Saint-Aurin, c'est Blaise Mao, aux éditions Talendier. Ça va vous parler encore? Parce que c'est difficile d'écrire un livre à deux.
On a été efficace et on s'est bien réparti la tâche. Donc ça va, on se parle encore.
Et pas trop parano.
On vous a vu arriver, vous entendez très bien. Alors avec vous, on va faire le tour de notre maison à la découverte de ces objets qui n'ont l'air de rien et qui pourtant, on le découvre, sont des accès faciles finalement à notre intimité pour des hackers, pour des pirates informatiques. Sidonie l'évoquait, dans la chambre de nos enfants ou petits-enfants, près de la poupée espionne ou en tout cas d'une poupée non-espionne, Il y a, alors pour le coup, très développé, très utilisé par beaucoup de parents, il y a le babyphone. C'est-à-dire, ça permet d'écouter si son enfant va bien, s'il appelle,
s'il
à
respire.
Le bout de la maison, s'il respire. Voilà. On l'a tous fait, cette angoisse-là. Ouais. Ouais.
Alors, le babyphone fait effectivement partie des objets connectés qui ont été testés par plusieurs entreprises de cybersécurité et qui fait partie des objets les moins sécurisés. Il s'est passé une histoire incroyable aux États-Unis il y a 2 ans. Un couple de l'Ohio, de Cincinnati, le couple Shrek. Adam et Heather Shrek, qui avaient donc investi dans un babyphone et qui, tout d'un coup, le babyphone fait un peu de bruit. Madame regarde, elle se rend compte que ça bouge bizarrement. Monsieur se lève immédiatement et va dans la chambre de la petite Emma, 10 mois. Et là, il entend une voix qui crie « Réveille-toi, bébé, réveille-toi !» En fait, la caméra parlait, la caméra s'est tournée, le babyphone s'est tourné vers lui, rentrant dans la chambre, affolé, et s'est mis à lui crier des insanités. Ils ont été traumatisés, ils ont parlé de cyberviol dans une interview dans la foulée de cet événement. Et alors, c'est un peu le cas extrême, hein. Donc là, on n'est pas, c'est plus pour faire peur, c'est pas tellement pour voler de l'argent, mais c'est assez effrayant.
On se dit que alors, moi, je suis vieux. Pardon, bientôt 5 ans.
Pour une fois, c'est vous qui le
dites. Donc, mon babyphone, il était connecté à rien, si vous voulez. C'était un babyphone A et puis, vous voyez, le B, il n'y avait pas d'informatique. Aujourd'hui, ils sont quoi? Ils sont reliés à quoi? Un ordinateur où on peut voir en même temps l'image de son enfant? Comment il a été piraté, ce babyphone?
Ouais, l'objet connecté, c'est l'objet qui est relié à Internet, le plus souvent en Wi-Fi ou en Bluetooth, donc sans connexion filaire, on va dire. Mmh. Et c'est ça qui permet d'avoir accès à plus de données, de le configurer, de le personnaliser. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le pirate s'est connecté sur un flux qui n'était pas chiffré, qui n'était pas crypté. Donc, la plupart des flux de ces objets connectés...
Il n'y a pas de mot de passe, en fait, c'est ça?
Alors, il peut y avoir un mot de passe, mais pas de chiffrage. C'est-à-dire que les données, en fait, sont... Le flux des données est accessible à quelqu'un qui s'est bidouillé. Il ne faut pas non plus laisser croire que c'est à la portée du premier venu.
D'accord.
Mais je dirais que là, on est vraiment dans le cas d'une volonté de faire peur à une famille un peu un fou, un peu un allumé, pas tellement un hacker du grand banditisme, mais c'est assez effrayant.
Alors j'imagine que depuis, les babyphones sont hyper sécurisés depuis cette aventure.
Alors ce qui se passe, c'est que la plupart des objets connectés sont mis sur le marché en ayant des énormes failles de sécurité. 7 objets connectés sur 10, selon une étude de Hewlett-Packard, parmi les plus vendus, ne sont pas sécurisés. Soit ils ont une défaillance au niveau du mot de passe, soit ils ont une défaillance au niveau du chiffrement.
Donc c'est à l'utilisateur de trouver la solution ?
Alors ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, c'est ce qui s'est passé avec Facebook, ce sont les hackers éthiques qui signalent aux entreprises les failles et on fait des correctifs, on corrige a posteriori, soit avec l'envoi d'une clé USB, soit avec une reconfiguration automatique à distance, on reconfigure ces objets pour les mettre aux normes. Mais la concurrence est telle, la pression commerciale est telle qu'on commercialise aujourd'hui sur le marché des objets qui ne sont pas sécurisés.
Alors en ce moment, il y a l'euro de foot qui se profile à l'horizon et c'est une période où beaucoup de gens se posent la question d'acheter une nouvelle télé. Donc des télés de plus en plus connectées, de plus en plus qui vous offrent tant de services. Est-ce qu'une télé peut devenir un espion ?
Une télé peut être un espion, comme dans 1984 de George Orwell. Il y avait le télécran avec la police de la pensée qui observait tout le monde. C'est un peu ce qui se passe avec la Smart TV. En fait, aujourd'hui, la télé intelligente, donc, elle est, par défaut, il y a cette option commande vocale. Vous savez, pour éviter d'avoir à manipuler la zapette, la télécommande, vous pouvez dire « allume-toi » ou « zapper », dire le nom d'une chaîne et ça se fait automatiquement. Et donc, pour ça, il y a un micro qui écoute les conversations alentour.
Et ça, c'est pas en circuit fermé encore.
Ça, c'est par défaut. Le plus souvent, ça n'est pas en circuit fermé. Et,
Donc, un hacker peut nous écouter, en fait.
Un hacker peut vous écouter. L'année dernière, Samsung avait publié dans sa charte de confidentialité cette phrase incroyable. Sachez que si vos paroles contiennent des informations personnelles ou sensibles, elles seront incluses dans les données capturées et transmises à une partie tierce. Donc c'était une manière de dire, ne parlez pas de choses trop sensibles dans votre canapé. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Bon, depuis, ils ont publié une solution qui s'appelle Gaia, qui est une mise à niveau de sécurité, mais ça veut dire que par défaut, une Smart TV peut vous écouter.
Alors, il y a la télé, le babyphone, la poupée, on commence à être un peu flippé quand même. Il y a aussi le compteur électrique. Mais c'est quoi cette histoire ? Il peut nous espionner ?
Ouais, le compteur électrique, malheureusement, fait aussi partie des objets connectés potentiellement avec de grandes oreilles. Le compteur
Linky. Les nouveaux,
les nouveaux. Alors, on parle beaucoup de Linky en France, parce que Linky, c'est le compteur d'EDF qui va être déployé dans tous les foyers en 2020. Nous, on a rencontré... Alors évidemment, EDF va dire que c'est très sécurisé. Ça l'est sûrement. Faut pas faire croire que c'est à la portée du premier venu de hacker un compteur intelligent. Mais nous, dans notre enquête, on a rencontré un chercheur en cybersécurité qui nous a dit « Moi, Linky, j'ai mis 3 heures à le hacker. »
Et ça permet
potentiellement,
de faire quoi, en fait ?
Bah, potentiellement, je peux trafiquer ma note d'électricité
pour
l'amener
pour
le plus proche possible de zéro.
D'accord.
Ou alors, à l'inverse, je peux augmenter celle de mon voisin que je déteste, qui fait trop de bruit et que j'ai envie de... Je vais un petit peu lui faire payer plus. Voilà, on peut imaginer toutes sortes d'utilisations de détournement, là, plus autour de l'argent.
Donc, ce que j'entends, c'est que les professionnels, les constructeurs ont peut-être une sécurité, en tout cas avec des failles. Vous dites 7 objets connectés sur 10. Nous, on peut faire quoi ? Parce que, je ne sais pas, par exemple, ma télé hyper connectée, alors, je peux faire quoi pour éviter d'être écouté ?
On peut faire, déjà les basiques. Ce qu'il faut absolument faire, c'est avoir un mot de passe sécurisé. Donc un mot de passe sécurisé, ça veut dire un mot de passe avec des chiffres, des lettres et ce qu'on appelle des caractères
donc
spéciaux.
Donc c'est pas le nom de notre enfant ou notre date de naissance.
Pas le nom de l'enfant, pas le nom du petit chien, pas les noms de tout ce que vous pouvez mettre sur les réseaux sociaux. Les hackers repèrent sur vos profils et testent. Donc mot de passe sécurisé, synchronisation, éviter la synchronisation de tous vos comptes sur tous vos appareils. Ça c'est très important aussi parce que maintenant on utilise tous ces appareils pour travailler, son ordinateur, dans son lit le soir, sa montre connectée dans le métro. Donc attention à la synchronisation.
Dans un instant, on va découvrir que même dans notre voiture, on n'est pas à l'abri d'un piratage. Là, vous êtes en train de nous écouter, là, vous rentrez chez vous. Eh ben oui, c'est possible, on va peut-être pouvoir vous pirater en voiture. A tout de suite, les curieux, sur
dans
RTL.
Dans un instant, retour de la curiosité.
Vous écoutez RTL.
L'an dernier, des hackers ont trouvé une façon d'avoir accès à distance aux Cherokee fièrement sortis des usines Jeep.
La curiosité est un vilain défaut.
Il y a un cheval de Troie dans le DVD, il envoie des données par Internet.
RTL.
C'est le logo de l'entreprise Dao Wang, une fabrique de gâteaux chinois.
Ok, je lance la reconnaissance faciale.
La cybersécurité était il y a un an quelque chose qui n'était pas prioritaire. Elle fait partie maintenant des 3 priorités principales.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Identification positive à plus de 99%.
Après tout ça, normalement, on n'est pas piraté. Et encore, à la maison, au travail, dans la voiture même, nous sommes de plus en plus connectés et les cyberpirates se frottent les mains. Les dangers et les solutions aussi avec les journalistes Blaise Mao et Thomas Saint-Ourens, auteurs de Cyberfragile aux éditions Thaïlandais. C'est le Parisien Magazine en partenariat avec RTL qui publie les bonnes feuilles de votre essai. On a parlé longuement de ce mot de passe qui est vraiment hyper important pour justement protéger nos objets connectés de l'intervention des pirates. Ces mots de passe, vous conseillez en gros d'en avoir un par compte et de les connaître par cœur, donc de ne pas les noter mais de les garder en tête. Et là on se dit mais c'est infernal, ça va tout le temps être comme ça?
Non, la bonne nouvelle c'est que le mot de passe c'est déjà un peu fini. On le voit avec les paiements bancaires. On reçoit un code par texto à rentrer pour activer. C'est déjà une première manière de dépasser le mot de passe. Ce qui va se passer, c'est des solutions un petit peu plus futuristes. C'est par exemple le rythme de frappe sur le clavier. En fait, chacun d'entre nous a un rythme de frappe sur le clavier différent.
On n'est pas deux à avoir le même rythme ?
A priori, non. On peut arriver à profiler au maximum par le rythme de frappe. On pourrait même aller vers de la biométrie ou de la reconnaissance vocale. Donc vraiment des solutions... l'empreinte vénale. Enfin, il y a aujourd'hui dans les labos de recherche des solutions beaucoup plus poussées. Je pense que le mot de passe a encore quelques années parce que c'est la solution pratique, mais on peut déjà acter qu'il est en fin de cycle.
Alors j'ai découvert en lisant l'article du Parisien Magazine qu'on pouvait aujourd'hui voler notre voiture sans effraction, sans péter de vitre, sans péter de serrure.
Oui, c'est même la nouvelle tendance, je dirais, ça s'appelle le vol à la souris, mouse jacking en version originale.
Souris pour souris d'ordinateur.
Le mulot, comme disait Jacques Chirac.
le vol longtemps. Au mulot, qui consiste à utiliser des boîtiers électroniques qui sont vendus quelques dizaines d'euros pour ouvrir et faire démarrer une voiture sans trace d'effraction. En fait, il s'agit d'intercepter et reproduire notamment le signal des clés qui ouvrent les portes à distance, notamment qu'on trouve de plus en plus sur les véhicules de luxe ou haut de gamme. Mmh. Et aujourd'hui, plus de la moitié, voire les deux tiers des vols de voitures se réalisent comme ça. Et c'est assez intéressant et assez compliqué, notamment pour les compagnies d'assurance qui ont besoin d'identifier les traces d'une effraction pour en reconnaître la validité, accepter les indemnisations. Et donc là, on rentre dans une nouvelle ère. Mais ça, c'est que le début, je dirais, hélas, parce que la prise de contrôle à distance des voitures est quelque chose qui pourrait arriver dans les années à venir aussi.
Oui, alors c'est vrai qu'on va vers des voitures de plus en plus connectées. Il y a même les constructeurs préparent la voiture sans pilote.
La voiture autonome, oui.
Voilà, autonome. Donc là, on se demande comment elle est protégée. Mais même aujourd'hui, dans beaucoup de voitures, il y a un speed control. On garde le volant, puis on n'a plus les pieds sur l'accélérateur. Donc est-ce que quelqu'un peut prendre le contrôle, par exemple, de la vitesse de notre voiture ?
Alors, il y a une anecdote, ou plutôt une expérience qui est assez édifiante, qui a été menée aux États-Unis l'été dernier. Un journaliste a servi de cobaye, Andy Greenberg, un journaliste à Wired, qui était au volant de sa Jeep Cherokee sur le périphérique de Saint-Louis, dans le Missouri. Et tout d'un coup, la climatisation s'est mise en marche à pleine puissance, tout seul, alors qu'il avait appuyé sur aucun bouton. Il continue quelques mètres, c'est les essuie-glaces qui décident de balayer le pare-brise à vitesse accélérée, avec beaucoup de produits pour nettoyer. Bon, bref. L'autoradio se déclenche, une musique hip-hop à plein volume, il commence vraiment à flipper un petit peu. Et ensuite, c'est carrément la vitesse du véhicule qui se met à varier, à augmenter, puis à décélérer.
Donc là, il n'était pas au courant, c'est
alors
ça
là, il était,
il savait qu'il participait à un test.
Il était tout d'accord. À fait au courant, mais là, il est quand même au bord.
Sinon, tu crois que t'es
de la crise de nerfs.
Là, on attend les extraterrestres, la phase suivante.
Voilà. Alors en fait, ce ne sont pas deux extraterrestres, mais ce sont deux hackers éthiques, on va dire, des hackers bienveillants. Mmh. Alors, pas n'importe lesquels. Il s'agit de Charlie Miller et Chris Valasek, qui sont parmi les deux meilleurs spécialistes de la sécurité des automobiles connectées, qui, à 15 km de là, depuis un salon, ont réussi à intégrer le système de divertissement intégré à cette voiture connectée, là où on peut regarder ses emails, choisir sa musique, etc. Mmh. Ils ont réécrit le code de cet ordinateur de bord et ils ont ainsi pu s'amuser avec la voiture de ce pauvre journaliste.
Mais ils l'ont fait en accord avec la marque ou alors ils ont voulu prouver qu'il y avait une faille pour ensuite, j'en sais rien, monnayer leur découverte.
Non, eux, c'était sympa, ils sont gentils. Ouais. Ils ont mis à peu près un an quand même à préparer leur coup et une fois qu'ils ont réussi à avoir les preuves que c'était possible à distance de hacker comme ça un véhicule connecté, ils ont transmis les conclusions de leur travail à Fiat Chrysler, mm-hmm. qui a quand même rappelé 1,4 million de véhicules aux États-Unis pour fournir un patch correctif sous forme de clé USB, puisqu'ils se sont rendus compte effectivement qu'il y avait une vulnérabilité dans cette voiture très grand public.
Alors des histoires comme ça et des solutions pour se protéger, il y en a des tonnes dans l'article du Parisien Magazine et dans votre livre Cyberfragile qui est publié aux éditions Thaïlandais. Merci infiniment à tous les deux, Thomas et Blaise. C'était un plaisir de vous avoir au micro de la curiosité.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.